Sauver sa peau, de Lisa Gardner. Traduit de l'anglais par Cécile Deniard. Lu par Colette Saudoyer. J'avais toujours eu de longs cheveux bruns. Ma mère me les nattait quand j'étais enfant. Mais, adolescente, je les avais réduits à un rideau impénétrable que je laissais tomber devant mon visage. Un jour, je décidai qu'ils m'empêchaient de voir la vraie beauté des vitraux et j'allais les faire couper chez le coiffeur du coin. Mon père ne m'adressa pas la parole pendant une semaine. Et je m'aperçus, assise dans mon église, à observer les allées et venues de mes voisins, que mes sweats trop larges étaient tristes, que mes jeans baggy ne m'allaient pas. J'aimais les gens qui portaient des couleurs vives. J'aimais la manière dont cela attirait l'attention sur leur visage, soulignait leur sourire. Ces gens avaient l'air heureux, normaux, aimants. Je parie qu'ils ne mettaient pas 3 secondes à répondre chaque fois qu'on leur demandait leur nom. Alors, je me suis acheté de nouveaux vêtements, pour le club de débat. Et je me suis mise à passer toutes mes soirées du lundi à la soupe populaire. C'était obligatoire pour l'école, et j'expliquais à mon père. On avait tous tant d'heures de travaux d'intérêt général à accomplir. Il s'est trouvé qu'un gentil garçon était aussi bénévole là-bas. Cheveux bruns, yeux bruns. Matt Fisher. Matt m'a emmené au cinéma. Je ne me souviens pas du film qui passait. Je sentais la main de Matt sur mon épaule, la moiteur de mes paumes, ma respiration heurtée. Après le film, nous sommes allés prendre une glace. Il pleuvait. Il a tenu son manteau au-dessus de ma tête. Et alors, tous deux enveloppés dans son blouson qui sentait l'eau de Cologne, il m'a donné mon premier baiser. Je suis rentrée à la maison sur un nuage, les bras croisés autour de la taille, un sourire rêveur sur les lèvres. Mon père m'a accueillie à la porte. 5 valises se profilaient derrière lui. « Je sais ce que tu fabriques », déclara-t-il. « Chut », dis-je en posant un doigt sur ses lèvres. « Chut ». Je passais en dansant à côté de mon père, estomaqué. Je me glissais dans ma minuscule chambre aveugle. Et pendant 8 heures, je restais allongée sur mon lit et m'autorisais à être heureuse. Il m'arrive encore de penser à Matt Fisher. Est-ce qu'il est marié aujourd'hui? Est-ce qu'il a 2 enfants, 2? Est-ce qu'il parle quelquefois de la fille la plus cinglée qu'il ait jamais rencontrée? Embrassée un soir, jamais revue? Mon père n'était pas à la maison le lendemain matin. Il revint vers midi et me flanqua les faux papiers dans la main. Et je ne veux aucune remarque sur les noms, dit-il en me voyant tiquer. J'étais désormais Tanya Nelson, fille de Michael. Essayer d'obtenir ces papiers au pied levé m'a déjà coûté 2 briques. Mais tu as choisi les noms. C'était tout ce que le type pouvait me donner.
Mais c'est toi qui as rapporté les noms, insistai-je.
Bon, comme tu veux.
Il avait déjà une valise dans chaque main. Je restais inflexible, les bras croisés, le visage implacable. « Tu as choisi les noms, je choisis la ville. »
« Quand on sera en voiture. »
« Boston. » Il ouvrit des yeux ronds. Je voyais bien qu'il avait envie de protester. Mais c'était la règle. Une famille est un système. Quand on a passé sa vie à fuir la chose, on se demande forcément ce qu'on ressentira le jour où elle finira par vous rattraper. J'imagine que mon père n'a jamais eu à le savoir. Les flics ont dit qu'il était descendu du trottoir et que le taxi lancé à pleine vitesse l'avait tué sur le coup. Son corps a été catapulté à 7 mètres au-dessus du sol. Son front a percuté un réverbère métallique et s'est enfoncé dans son visage. J'avais 22 ans. J'avais enfin terminé mon laborieux parcours à travers une kyrielle d'école. Je travaillais chez Starbucks. Je marchais beaucoup. Je mettais de l'argent de côté pour une machine à coudre. Je montais ma propre entreprise de confection de rideaux et de coussins de canapé assortis. J'aimais Boston. Revenir dans la ville de mon enfance ne m'avait pas laissé paralysée de peur. Tout le contraire, en fait. Je me sentais en sécurité au milieu des foules constamment en mouvement. J'aimais flâner dans Public Garden, faire du lèche-vitrine dans Newbury Street. J'appréciais même le retour de l'automne, quand les jours prennent une odeur de chêne et que les nuits sont fraîches. J'ai trouvé un appartement ridiculement petit dans le North End, d'où je pouvais aller à pied à la pâtisserie Mike's pour manger des cannolis frais quand j'en avais envie. Je mis des rideaux, pris un chien, appris même à faire les tamales de maïs. Et le soir, posté devant ma fenêtre à barreaux du 5e étage, les cendres de ma mère au creux de la main, j'observais dans la rue les passants anonymes. Je me disais que j'étais adulte à présent. Je me disais que je n'avais plus rien à craindre. Mon père avait dirigé mon passé, mais mon avenir m'appartenait et je ne le passerais plus à fuir. Je n'avais pas choisi Boston par hasard et j'étais là pour de bon. Et un jour, tout s'est précipité. J'ai pris le Boston Herald et j'ai lu la nouvelle en première page. 25 ans après, on m'avait finalement retrouvée morte.